Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Cette semaine, je reçois Héloïse Capiro, créatrice de la maison de joaillerie engagée Héloïse et Abélard. Héloïse prône une joaillerie éthique, engagée, responsable et raisonnée. Loin des principes de la fast fashion, parfois appliqués aux maisons de joaillerie conventionnelles, elle imagine et conçoit des pièces pour lesquelles chaque pierre a été chinée et achetée de seconde main. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Héloïse.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Je suis ravie de te recevoir au micro de Basilic. On échange depuis un petit moment et on a enfin l'occasion de se rencontrer en vrai. Tu es la créatrice d'une marque de joaillerie éthique qui a une approche que j'ai encore jamais vue et que j'ai encore jamais abordée au micro de Basilic. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'ai déjà pas mal abordé. Donc on va parler de tout ça et ça s'annonce passionnant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Héloïse Capiro, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, parisienne. J'ai monté Héloïse et Abélard il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui, donc, qui est la première maison de joaillerie recyclée, fabriquée à Paris, en tout cas en France. Après une bonne dizaine d'années d'expérience au sein de grandes maisons de la place Vendôme.
Tu avais fait une formation pour travailler dans le secteur de la joaillerie initialement ou c'est venu à toi plus tard ?
Pas du tout, donc j'ai pas du tout un parcours de joaillière en tout cas. Je travaille pas du tout de mes mains, je crée des bijoux, enfin je dessine des bijoux mais c'est pas du tout moi qui les fabrique. Moi j'ai un parcours un peu plus classique, donc j'ai fait une école de commerce à Paris et ensuite j'ai fait l'Institut français de la mode qui m'a permis en effet de me rapprocher déjà des bijoux. Et j'avais l'ambition de travailler plutôt sur la maroquinerie. Et donc j'ai intégré en fait des maisons de luxe en ayant l'ambition de travailler au développement produit donc sur la maroquinerie. Et par un heureux hasard, je me suis retrouvée finalement à l'horlogerie joaillerie depuis le début. Et du coup, j'ai continué sur cette voie.
Et au bout de 10 ans, pourquoi est-ce que tu as eu envie de quitter ce secteur ?
Alors, je dirais que c'est un peu la conjonction de plusieurs éléments. Déjà, d'un point de vue personnel, moi, j'ai toujours eu envie de devenir chef d'entreprise et de créer ma propre marque. Donc, c'était un dessin prévu au sein de mon évolution professionnelle. Ce qui me manquait, c'était le déclic quand et comment et pourquoi surtout. Et des événements personnels m'ont aussi mis sur la voie progressivement, puisque voilà, moi je me suis retrouvée, comme je vous l'explique, par un heureux hasard dans la joaillerie, mais je pense que c'était pas tant un hasard que ça, puisque très jeune, j'ai toujours été extrêmement sensible aux bijoux. J'ai grandi dans un univers où les femmes étaient extrêmement coquettes, extrêmement soucieuses de leur allure et de leurs bijoux. Moi, j'accompagnais souvent ma mère, ma grand-mère chez des artisans avec qui elle redonnait vie à des bijoux qu'elle transformait. Et progressivement, mon métier au sein des grandes maisons c'est un peu éloigné de ma propre vision du bijou et de la joaillerie. Donc c'est vrai que moi, ce qui me passionne dans ce métier, c'est l'idée de l'artisanat, l'idée d'une authenticité très... très pure, beaucoup de transparence aussi, et effectivement l'idée surtout de rareté et de matières premières qui sont extrêmement nobles, qui sont extrêmement rares, dont l'extraction est problématique pour de nombreuses raisons. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu dans mon imaginaire l'idée que si, en tant que femme, on a la chance de détenir un diamant ou des pierres précieuses, on se doit On est les gardiens temporaires de leur beauté et de leur âme, et on se doit de les porter, de les faire vivre, de les transmettre. Et c'est vrai qu'en travaillant dans des grandes maisons, je me suis progressivement vraiment éloignée de cette dynamique-là en travaillant sur des collections à beaucoup plus gros volume, plus grande échelle, une clientèle aussi très internationale. Donc je m'éloignais vraiment de cette notion de joaillerie très personnalisée, rare, un peu plus confidentielle. Voilà, je ne sais pas si j'ai abordé quelques...
si, complètement. Et donc, tu as créé Héloïse et Abélard il y a combien de temps maintenant ?
Alors, j'ai créé, j'ai quitté la dernière maison de joaillerie dans laquelle j'ai travaillé en juillet 19. Et j'ai déposé les statuts de la maison Héloïse et Abélard en octobre. Donc, assez rapide. J'ai tout de suite vraiment le premier ancrage de cette maison, c'est le recyclage. L'idée, c'était, j'ai rien inventé, hein, attention, tous les artisans bijoutiers du monde, depuis que la joaillerie existe, montent et démontent des bijoux. Ce qui n'existait pas avant nous, c'est l'idée de diriger une marque qui crée ses propres collections et qui fonde tout son processus de fabrication sur le recyclage de diamants et de pierres. Ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est qu'en fait, au lieu de faire appel à un diamantaire externe, ou d'avoir un service d'achat pierre qui va acheter des pierres sur le marché à Anvers, en Inde ou autre. Nous, on travaille uniquement des pierres de seconde main.
Comment est-ce que tu te procures ces pierres de seconde main ? Est-ce que ce sont tes clients et clientes qui te les fournissent ? Est-ce que tu les achètes ?
Alors, on les achète majoritairement. Donc, on se fournit sur le marché de la seconde main. C'est-à-dire qu'on achète des bijoux de seconde main en vente aux enchères, auprès d'antiquaires. On récupère aussi des lots de diamants qui dorment dans des ateliers de joaillerie indépendants, des petits ateliers de réparation qui font du bijou ancien. Enfin, il y a énormément d'artisans. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la joaillerie, le marché de la joaillerie, c'est encore plus de 70% de pièces qui sortent de petits artisans. Les marques aujourd'hui n'ont pas encore... elles progressent beaucoup sur le marché, mais ça reste un marché d'indépendants.
Tant mieux.
Voilà. Donc, on se fournit beaucoup. C'est un tout petit monde. Voilà. Majoritairement, on démonte nos pierres de bijoux de seconde main qu'on achète en France. Voilà.
D'accord. Et comment est-ce qu'on peut conserver une pierre aussi longtemps ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, que les diamants soient abîmés, qu'ils soient polis ?
Alors, déjà, dans le diamant, ce qu'il faut avoir en tête sur l'histoire du diamant, c'est que en fait, ce qui définit un diamant, donc sur sa qualité, on va avoir sa couleur, sa pureté et sa taille, son poids. Bon, ça c'est annexe. La taille, en fait, c'est ce qui a évolué au cours du temps. La couleur et la pureté, on l'a défini. C'est une échelle en fait de valeur qui change pas au fil du temps. La taille, depuis qu'on commence à s'intéresser aux diamants, on a c'est une roche, c'est un matériau complètement brut. On a appris en fait à le façonner. On a appris à le tailler en réalisant d'ailleurs que le seul élément qui peut tailler le diamant, c'est le diamant lui-même, parce que le diamant est de la matière la plus dure du monde. Et progressivement, on a appris à faire quelques facettes, plus de facettes, à comprendre que il faut qu'il y ait une table, donc une partie supérieure de la pierre qui soit plate. Il faut qu'il y ait des facettes sur les côtés. Voilà. Et on a cheminé, l'homme a cheminé siècle après siècle pour vraiment apprendre à tailler cette matière. La taille moderne, qui est la taille actuelle du diamant, qui a 57 facettes, et qui a la forme du diamant qu'on connaît aujourd'hui, elle existe depuis les années 1920. Elle a été définie en Belgique, elle a été créée en Belgique. Puisque, comme on le sait, bon, la Belgique et Anvers notamment sont très, très au fait de la culture du diamant. Et depuis, on a cheminé sur la taille uniquement sur, disons, l'intégration de plus de machines, d'opérations un peu plus machines. La taille, elle est un peu moins manuelle qu'avant, mais ça dépend aussi des places de taille dans le monde. Donc, en fait, la pierre, on va dire... Une pierre des années 1950 de qualité GVS, si je prends un exemple, c'est la même qu'une pierre des années 80 de qualité GVS qui est la même que celle des années 2000. On n'a rien inventé, rien changé. Donc nous, effectivement, par rapport à ta question, ce qui est sûr, c'est que une pierre des années 80 et une pierre des années d'aujourd'hui, c'est la même, c'est à qualité égale. Le porter, en effet, est-ce qu'il influe la qualité de la pierre ? C'est possible. Si le bijou a été peut-être mal monté, si les griffes qui l'entourent ou le sertissage est fragile, et par exemple, au frottement d'une autre bague, les griffes ont été un peu fatiguées et la pierre elle a été frottée, par exemple. Oui, on peut avoir ce qu'on appelle des rondisses de pierre, qui sont les contours qui sont un petit peu abîmés. Donc tout ça, nous, on va évidemment l'analyser, le vérifier. On a nos critères qualité. Donc nous, on achète uniquement des pierres qui sont de qualité GH et pureté VS, donc sur un standard qualité très élevé. Et c'est notre job, justement, de nous assurer que les pierres sont parfaites. Voilà.
C'est très intéressant. Mais comment est-ce que ça se passe pour toi qui imagine et qui conçoit ces pièces? Comment est-ce que tu fais, vu que tu ne sais pas les pierres que tu vas avoir? Alors, tu sais que tu peux acheter des diamants,
bien sûr,
mais tu ne sais pas la taille qu'ils auront, tu ne sais pas l'apparence. Comment tu fais?
Alors, en fait, je sais... Déjà, quand je crée des collections, quand je crée mes bijoux, je sais à peu près les dimensions de diamants. Disons que j'ai une échelle de dimensions que je connais, que je maîtrise assez bien aussi par mon passé, mes expériences passées. C'est vrai que c'est un métier en tout cas que je connais assez bien. Donc quand je crée mes bijoux, je sais assez vite quel type de pierre, quelle dimension en tout cas dont je vais avoir besoin. Il y a des pierres sur lesquelles je vais avoir des difficultés à sourcer. Comme je te le disais dès le départ, étant donné que c'est le fondement de ma marque, si je dessine un bijou, par exemple récemment, j'ai dessiné des bijoux qui avaient des diamants tappers. Donc ce sont des diamants baguettes qui ont la forme d'un petit rectangle, sauf qu'un côté du rectangle est plus court que l'autre. Typiquement, ces pierres-là, on les a dénichées sur un sublime bijou qu'on a trouvé. J'ai eu un coup de cœur, on l'a acheté. J'ai créé des bijoux remontés en fait avec ces pierres-là. Je ne vais pas pouvoir en faire, clairement, beaucoup. Je le sais. Quand on n'en aura plus, on arrêtera. Sur les diamants ronds, on a parfois des difficultés, effectivement, à sourcer des dimensions. C'est comme ça. Si on ne peut plus les sourcer, on arrêtera, on passera à autre chose. Voilà, c'est vraiment... aujourd'hui, quand je crée un bijou, je m'assure d'avoir un peu de stock de pierres d'avance, ce qui me permet de refabriquer derrière, bien sûr. Toutefois... Ce modèle-là me permet aussi, un, de jamais me fermer, me cantonner à une dizaine de modèles en collection que je vais proposer 5 ans, ce que je trouve extrêmement ennuyeux. Ça me permet de créer beaucoup plus. Ça permet à mes clients de ne pas se retrouver potentiellement avec... à mes clientes de ne pas avoir une copine potentiellement qui va avoir le même bijou qu'elle dans quelques mois. Voilà, il y a cette notion de rareté qui est ancrée en fait dans notre marque. Et effectivement, c'est le jeu de notre sourcing. Voilà, donc c'est un fait, c'est comme ça.
On le sait en achetant chez toi que c'est un bijou qui ne sera pas forcément reproduit ou qu'on ne pourra pas forcément reproduire.
Exactement. J'ai même des clientes qui viennent parfois et qui me disent bah voilà, je vais avoir 30 ans dans 6 mois. Est-ce que ce sera OK? Est-ce que je pourrais aussi, moi aussi, avoir ce modèle-là? Je suis très honnête, c'est-à-dire que quand je sais que je vais pouvoir le faire, aucun problème. Quand j'ai aucune visibilité, je suis aussi transparente. Ce qui est important chez nous, et qui a aussi été érigé en fondement dès le départ, c'est qu'on ne fabrique uniquement à la commande. C'est-à-dire que moi, j'ai un stock de pièces qui sont mes pièces de présentation. Dans mon idée de recyclage, il y avait un élément qui était clé pour moi, c'était de ne pas recréer du stock dormant. Si moi, je trouve une solution pour faire circuler les diamants et justement leur redonner vie, c'est pas pour recréer du stock chez moi. C'était une hérésie. Aujourd'hui, surtout que moi, je fais beaucoup de bagues, donc c'est comme une paire de chaussures. On a toutes les métriques possibles. On peut avoir une dizaine de tailles par bijou. Donc ça avait aucun sens. Puisque aussi, l'idée, c'est de créer un bijou pour ma cliente, que je suive ce bijou en fabrication, que je vous propose un bijou qui sorte de l'atelier et pas un bijou qui a été présenté 10 fois et qui dort dans mon coffre depuis potentiellement 6 mois.
Oui, donc tu repenses vraiment le mode de fonctionnement de la joaillerie conventionnelle ou en tout cas des grandes maisons pour lesquelles tu as pu travailler.
Exactement. L'idée, ça a été vraiment partir vraiment d'une joaillerie circulaire. De cette joaillerie circulaire est venue l'idée de fabriquer à la commande. Effectivement, le gros souci dans tout ça, c'était le délai. C'était de se dire comment... Parce que cette fabrication qui est extrêmement chronophage pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans un fonctionnement un peu plus normal de fabrication, demain, je pourrais appeler un diamantaire à Anvers et lui demander de m'envoyer 100 pierres de 2 mm en qualité GVS. Je pourrais les recevoir à l'atelier 2 jours après et fabriquer. Notre processus de fabrication de chasse de pierres, il est beaucoup plus complexe. Donc déjà, ça nous prend beaucoup de temps. Et ensuite, tout l'enjeu était de trouver un atelier de très grande qualité avec lequel je puisse travailler, qui soit d'accord pour avoir un processus de fabrication de pièces uniques, ce qui est plutôt de l'ordre de la haute joaillerie. De la pièce unique à 2 500 €, compliqué. Que ce soit pour la mode, pour un sac, trouver un fabricant qui accepte de procéder ainsi, c'était là où c'était un petit peu plus difficile. Et dans un délai de 3 semaines. Voilà, donc on arrive à tenir ces enjeux-là. Je pense qu'aujourd'hui aussi, le marché a beaucoup changé et que peut-être que ce mode de fabrication, il a fallu trouver quelqu'un qui, dès le départ, a trouvé que notre démarche, elle avait du sens et qu'elle avait de l'avenir. Et depuis, il est très content d'être derrière nous.
Voilà. Tu as trouvé cette personne à Paris ?
Oui, exactement. Donc nous, nos bijoux sont fabriqués dans le Marais, par un atelier de joaillerie traditionnelle. Il faut avoir en tête que pour fabriquer un bijou aujourd'hui, chez nous, il y a à peu près 7 personnes qui vont travailler sur le bijou. Donc il y a des opérations qui sont extrêmement artisanales, comme la fonte. Donc la fonte, c'est la manière dont on obtient le bijou dans sa forme la plus brute, d'or, une fois que en fait on a coulé de l'or au sein d'un moule pour obtenir notre bijou, mais on a aussi une partie qui est extrêmement moderne par la conception en 3D du bijou.
Oui, justement, je voulais y venir. Ce qui est très intéressant avec ce projet, c'est que tu mêles des traditions anciennes, comme tu viens de le dire, à des savoir-faire très très récents, très numériques,
tout à fait,
comme l'impression 3D. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de mêler ces deux fonctionnements?
Alors, je pense que c'est quelque chose qui est assez affirmé aussi dans notre marque. On a un modèle qui est assez hybride, puisqu'on est très attaché à l'artisanat et à la circularité. Et en même temps, on est aussi très digital. On a une communication qui est assez forte sur les réseaux sociaux. Tous nos clients viennent aussi souvent en fait, des réseaux sociaux. Donc, le côté très hybride de l'ancien... du vintage, du revisité et de quelque chose de très moderne. Je pense que c'est quelque chose avec lequel je jongle très facilement sur tous les aspects. Ne serait-ce qu'aussi dans la création. Je pense que j'ai une approche du bijou qui est assez moderne et qui en même temps est relativement intemporelle. Mes bijoux, on me dit souvent que finalement, j'ai des clientes qui vont avoir 60 ans, qui vont me dire, j'ai pas du tout l'impression de m'acheter quelque chose de complètement ultra moderne, oulala, je prends un risque fou, je trouve ça assez intemporel aussi. Et j'ai des clientes de 25 ans qui vont me dire c'est ultra moderne, j'adore ton approche. Voilà. Donc sur la fabrication, pour revenir à ta question, c'est aussi des éléments avec lesquels on jongle très facilement. Moi, j'ai pas un parcours de designer joaillier, j'ai pas de CAP bijouterie, je ne sais rien faire de mes mains, je suis pas du tout manuelle, donc je sais très bien ce que je veux. Donc moi, je compose en fait des compositions aléatoires de pierres que je dispose avec des dimensions très précises. J'ai une idée assez technique de ce que je veux. Et après, j'ai une personne qui travaille avec moi en 3D. On travaille vraiment main dans la main. Ça serait un peu comme un modéliste dans la mode, par exemple, qui va sur ordinateur surtout travailler les volumes. Parce que moi, je suis très, très, très à cheval sur la finesse, sur les hauteurs. J'aime pas le surplus parce que, encore une fois, dans cette dynamique aussi de recyclage, je veux pas qu'on en mette trop pour rien. La qualité est au cœur, mais c'est vrai qu'en joaillerie, en traditionnel, on a tendance, par exemple, à faire des anneaux très épais, à faire des choses... alors, ça rassure le client, mais ça sert à rien et ça coûte plus cher. Donc, voilà, la modélisation 3D, elle me permet, en fait, d'avoir une idée très rapide des volumes, ce que je vais pas voir sur un dessin. Voilà. Et de cette modélisation 3D, on imprime, grâce à des machines, enfin, des imprimantes 3D, on imprime en 3D le bijou, ce qui me permet de sortir une petite résine et de voir au doigt ou à l'oreille ou au cou ou peu importe le rendu vraiment réel du bijou. Et ensuite, on n'a quasiment que des opérations manuelles. Donc le fondeur, si tu veux, il va récupérer la résine qui est en plastique, il va la mettre sur un petit arbre, il va poser les bijoux, il va les entourer, poser les bijoux en résine, il va les entourer d'un cylindre. Il va couler de l'or à l'intérieur, ce qui va faire fondre la résine. On va sortir du coup une première maquette brute en or, 18 carats, donc avec de l'or qui est recyclé. Donc lui, il a des billes d'or recyclées, c'est-à-dire que c'est de l'or en circulation qui récupère sous forme de billes. Et donc ce bijou brut, il va passer au polissage, au certissage, à la gravure, au contrôle. Voilà, donc on va avoir une multitude de personnes... hyper spécialisés dans leur domaine, dont enfin maîtres de leur savoir-faire, voilà, par des opérations qui se suivent et qu'on peut pas inverser et que voilà. Donc à la fin, un bijou Élodie Abélard, c'est 3 semaines de fabrication, à peu près 8 personnes fabriquées à Paris dans les mêmes ateliers que les ateliers de grandes maisons, puisque voilà aujourd'hui on travaille avec une personne qui travaille avec toute la place Vendôme et c'est juste qu'on n'a pas les mêmes marges aussi.
J'allais venir à cette question du prix. Est-ce que s'approvisionner en diamants recyclés coûte moins cher?
Alors en fait, à l'achat, un peu, très honnêtement, mais ça dépend comment on achète. On a des prix qui sont variables. Quand justement, on est un peu... quand il y a des dimensions qu'on peut pas trouver. Je vais te donner un exemple très, très sincère. En ce moment, je ne trouve pas de pierre de 4 mm. Voilà, je te dis, j'ai un problème sur le 4 mm. Donc forcément, quand tu cherches quelque chose, bizarrement, c'est un peu plus cher. T'es pas prêt à attendre, t'as pas de choix, voilà. Donc c'est toujours un peu plus cher. Donc,
c'est l'offre et la demande, comme
exactement,
toujours.
Exactement, exactement. Donc on peut avoir des moments où on achète bien, mais globalement, on a aussi beaucoup de coûts de démontage. Enfin, voilà, on a des opérations, ça nous prend du temps, nous, de chercher, de trier. On fait beaucoup de tri. Parce que du coup, voilà, on classe nos pierres par taille, par dimension. Parfois, on se trompe, on pense acheter de la très belle qualité montée. Mais parfois, bon, bah, quand on démonte, on se rend compte que bah, non, en fait, y avait une piqûre qu'on n'avait pas vue. Voilà, donc on a beaucoup de temps qui nous coûte de l'argent aussi derrière. Donc, c'est pas super intéressant d'un point de vue. Non, je vais pas te dire jackpot.
Donc, les prix qui restent quand même abordables, alors ça reste de la joaillerie haut de gamme, on s'entend, mais ce sont des prix relativement abordables par rapport à ce qui est proposé dans des très grandes maisons.
Oui.
C'est aussi la marge.
En fait, c'est la marge. C'est aussi le fait que le modèle, Héloïse Abélard, moi, je l'ai créé en ayant envie de casser pas mal de sujets. C'est aussi que l'achat boutique, pour moi, me plaisait pas. Alors peut-être un jour et autrement, mais l'achat boutique comme il est aujourd'hui dans plein de marques, moi j'ai toujours eu un mari qui m'a dit voilà, j'ose pas rentrer dans une boutique d'une marque dans laquelle tu travailles, je trouve ça hyper intimidant, je me sens toujours mal à l'aise, j'y connais rien, voilà. Et j'ai toujours eu des amis autour de moi qui me tenaient le même propos, donc l'idée aussi c'était un peu de casser tout ça.
Toi, peut-être que tu t'en rendais pas compte, comme tu travaillais dans ces maisons.
Oui, alors pour moi, voilà. Et puis, c'est vrai que quand on travaille dans le luxe, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours appris que voilà, tout le monde doit être traité à la même enseigne. Il faut pas du tout croire que quand il y a un client qui rentre dans une boutique, on l'analyse et on se dit, bah voilà, lui, il a de l'argent, il a pas d'argent. Enfin, tout client potentiel doit être traité de manière, enfin, l'excellence du luxe, c'est aussi ça. Mais c'est vrai que il y a un protocole. Il y a un protocole d'achat, il y a des grosses normes de sécurité qui verrouillent aussi beaucoup les choses. Parce que, bah, voilà, on va vous mettre un bijou sur un plateau, on va ouvrir un tiroir, on va re-ranger un tiroir. Et en fait, ça crée de la complexité. Il y a un discours qui est très bien ficelé. Mais voilà, moi, j'avais envie de casser tout ça. Donc, j'avais envie d'avoir une approche qui soit plus humaine, plus transparente, un peu plus cool. Voilà, on fait des choses sans se prendre au sérieux. Enfin, la joaillerie, c'est quand même du beau, c'est désirable, etc. Mais on n'a pas besoin d'en faire un truc compliqué, opaque et intimidant. Ça doit rester un plaisir. Donc, par exemple, ça, c'est des frais que je pense qu'ils pèsent aussi beaucoup dans les marges potentielles. On a des marges honnêtes. On essaye de... Moi, mon job, c'est de financer notre croissance avec des marges qui nous permettent de vivre, de grandir.
Bien sûr.
De ne pas s'endetter comme des dingues pour financer tout ça. Mais à la fin, moi, le client, c'est moi, c'est toi, c'est mes copines, c'est mes sœurs, c'est mes tantes. Donc, je sais le budget que je peux avoir, que mes amis peuvent avoir. Donc, oui... 2000, 3000 euros pour une belle occasion, c'est possible. 5000, non, quoi. Enfin, très honnêtement, je sais que c'est une barrière importante. Donc, l'enjeu, c'est de fabriquer à Paris, d'avoir de l'excellente qualité à ce prix-là. Donc, c'est pas évident tous les jours.
Et d'où vient ce nom ?
Alors, Héloïse et Abélard, c'est une histoire d'amour. Donc, certaines personnes connaissent, mais c'est quand même une histoire qui est assez intime et confidentielle. Donc c'est une histoire d'amour qui a eu lieu en France, donc c'est une histoire qui est véridique, qui a eu lieu au Moyen-Âge. Donc on a Pierre Abélard qui a à peu près 37 ans, qui a un statut assez élevé à Notre-Dame de Paris, qui enseigne la théologie. Et on a Héloïse d'Argenteuil qui a 17 ans à l'époque, qui est la nièce d'une personne assez haut placée à Notre-Dame de Paris, qui demande justement à Pierre Abélard de faire son... À qui, en fait, il demande à Pierre Abélard de faire son éducation religieuse. Et puis, en fait, l'éducation religieuse, elle va se transformer assez vite en passion, et c'est une relation qui va rester platonique très peu de temps. Donc, c'est une histoire d'amour qui va naître assez vite. C'est une passion qui va se transformer par une passion assez littéraire aussi dans le temps. Leur histoire d'amour, elle est assez tragique parce que, bon, évidemment, l'oncle d'Héloïse a appris assez vite. On est au XIIe siècle, hein, on est au Moyen-Âge, donc la liberté de la femme, les relations hors mariage, etc., c'est pas... avec 20 ans d'écart, bon, c'est pas vraiment d'actualité. Et donc, ils vont être séparés, lui va être émasculé, enfin, voilà, tout ça va être assez terrible. Toutefois, c'est une histoire d'amour qui est connue parce que... c'est une histoire qui n'a pas d'âge. Ils vont à partir du moment où ils vont être séparés, ils vont entretenir une relation épistolaire toute leur vie. Donc les lettres en fait qui se sont écrites sont de notoriété assez ont une notoriété assez forte parce que pour l'époque, Héloïse notamment avait une culture qui était assez dingue et c'était une femme qui était extrêmement engagée et assez féministe, qui avait une vision du mariage par exemple. Trouvée complètement archaïque, elle a longuement refusé de se marier avec lui. Ils ont fini par se marier secrètement, etc., parce que c'était mieux, voilà. Mais du coup, cette relation épistolaire, elle est hyper intéressante. Elle fait partie du patrimoine littéraire français. Ils ont une fin, tous les deux, qui est assez romantique, parce que bon, lui est mort avant elle, évidemment. Elle a exigé, en fait, elle a été finalement... Après cette histoire, après la polémique qu'il y a eu autour de leur couple, tous deux ont fini leur vie dans des couvents respectifs. Et elle a exigé que la dépouille d'Abélard soit ensevelie, en tout cas dans le couvent dans lequel elle était. Et quand elle est morte, la légende dit qu'il aurait ouvert les bras quand elle a été ensevelie avec lui et qu'il aurait refermé ses bras sur elle. Et en 1917, la ville de Paris a estimé que cette histoire, elle était vraiment ancrée dans Paris, parce que en fait, toute leur histoire d'amour, elle a eu lieu quai aux Fleurs, dans un hôtel particulier qui est sublime. Ils ont fini leur vie, et aujourd'hui, leur dernière demeure, c'est le Père Lachaise, où ils ont une sépulture magnifique. Tout ça pour en venir au fait que moi, je m'appelle Héloïse pour cette histoire, parce que ma mère a toujours trouvé que c'était une histoire d'amour super belle, et quand j'ai créé Héloïse Abélard, j'ai trouvé que... ma maison est intimement liée à ma mère et à ce que ma mère m'a transmis aussi. je trouve que cette histoire d'amour, elle est romantique, elle est très ancrée dans Paris. Elle n'a pas d'âge, comme je te le disais. Elle est éternelle. Elle n'est pas du tout cucu. Et je trouve que dans le bijou, on a aussi ce côté un peu... voilà, on peut aussi avoir un romantisme qui ne soit pas forcément... je pense qui est un peu loin de nos vies aujourd'hui, quoi. Et j'avais envie de parler de cette histoire. Et voilà, je trouve qu'elle faisait un bon écho au passé... au présent. Et on me demande tout le temps qui est Abélard, du coup. On pense que c'est
ton mari.
Mon mari et mon associé. Voilà, mais non, il n'y a personne, du coup. Voilà, je suis la seule associée aujourd'hui. Et voilà.
Oui, puisque quand tu dis nous, j'imagine que tu parles de ton modéliste.
Alors oui, j'ai bien sûr une équipe qui travaille avec moi aujourd'hui. Je ne serais pas capable de faire toute seule ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je suis la seule associée fondatrice, voilà, je me suis lancée seule. Et donc, dans mon équipe, j'ai bien sûr des hommes qui m'entourent sur la partie fabrication. J'ai aussi des femmes qui m'entourent sur la partie fabrication et j'en suis très fière. J'ai aussi ma cousine qui travaille avec moi sur la partie communication depuis le départ. Donc, la famille est assez aussi ancrée... dans notre maison, et voilà, j'ai une équipe restreinte, hein, on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais de personnes qui dès le départ ont adhéré au projet, qui m'ont un peu suivi dans l'aventure. Faut quand même se dire qu'il y a un an, même si on commençait à l'éthique et la consommation responsable commençait à devenir un sujet, on en était quand même super loin, et la joaillerie, on n'est pas très avancé sur le sujet. Donc moi, quand j'ai dit « Ok, mon modèle, c'est en fait de la pièce unique à 2 500 € avec des pierres qu'on achète en seconde main », j'ai dit « Ok, bah, bon courage, quoi.
Voilà. Accroche-toi bien.
Ouais, exactement.
Est-ce qu'à travers chacun de tes bijoux, tu essayes de raconter une histoire ou c'est vraiment des créations qui se font quand tu vois les pierres et que tu les disposes sur tes papiers, sur ta table ?
Alors, tous mes bijoux ont un prénom. Ces prénoms font écho à l'histoire de femme qui m'inspire. Toutefois, créativement, j'associe pas une composition de diamant à une femme. Enfin, voilà. Tous mes bijoux, je les imagine en pensant à toutes les femmes qui m'entourent. Voilà, je les imagine tout de suite portées. C'est vrai que on est très vite dans le concret. Donc, moi, je mets très vite au doigt. Enfin, je dispose des pierres sur moi. Mais effectivement, l'histoire de chaque bijou, il est lié intimement à, parfois aussi aux pierres que je trouve, à la façon dont je vais disposer les pierres. Parfois, je vais faire des choses qui sont relativement proches de design un peu traditionnel, comme le toi et moi, comme la marguerite, comme voilà, des modèles qui sont très ancrés dans la joaillerie classique. Oui, je peux raconter, en fait, chaque bijou a une histoire parce que je l'ai composé à un certain moment, avec une certaine envie. Mais des histoires, ouais, j'en crée tous les jours, donc voilà, ça peut varier.
Et puis chaque bijou a une histoire puisque la pierre a déjà été portée.
Exactement.
Merci beaucoup, Héloïse, pour
Merci,
cet échange.
Jeanne. C'était un plaisir.
C'était vraiment très intéressant. Et puis, comme d'habitude, j'indiquerai tous les liens utiles dans la barre de description. À très
Super.
Bientôt.
Au revoir, merci.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast, que ce soit Instagram ou Twitter, pour avoir non seulement plus d'informations et suivre les coulisses du podcast, mais également tout simplement pour soutenir notre travail. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.